France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Esprit Public, votre rendez-vous du dimanche matin qui prend le temps d'analyser l'actualité nationale et internationale avec des intellectuels et sur le ton de la conversation. Exécutif, Parlement, bloquons tout, où est le peuple? C'est le titre de cette émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
Lettre ouverte au peuple de France. Pour le 10 septembre 2025, le jour où la France s'arrête. Françaises, Français, nous avons tout essayé. Les votes, les marches, les cris, les pancartes, les pétitions. On nous a ignorés, méprisés, frappés, divisés. À chaque fois qu'on s'est levé, ils ont sorti les boucliers, les matraques, les mensonges. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas marcher. Nous allons nous arrêter. Le 10 septembre 2025, la France se confine. Pas par peur d'un virus, mais par volonté d'un peuple qui dit stop. Stop aux injustices, stop aux abus, stop à ce système qui broie les humains pour nourrir les profits.
Tout est parti de cette voix, la voix masculine d'une intelligence artificielle comme un symptôme de l'époque. Derrière cette vidéo, une femme, Christelle, 46 ans, ancienne gilet jaune, qui lance en juillet le mouvement Bloquons tout, récupéré en août par la France insoumise et qui a finalement réuni 200 000 personnes dans les rues mercredi. Il sera intéressant de voir jeudi prochain, le 18 septembre, si les syndicats qui appellent à la mobilisation parviennent à faire mieux. Dans ce contexte, la chute annoncée de François Bayrou lundi 8 septembre et la nomination le 9 de son successeur à Matignon, Sébastien Lecornu. Ministre de tous les gouvernements d'Emmanuel Macron, c'est lui qui a organisé le grand débat national en 2019 pour sortir son patron de la première crise de mandat qui en compte tant, celle des Gilets jaunes. À lui de trouver une voie de passage pour faire adopter un budget avant décembre, tout en lançant un nouvel acte de décentralisation 6 mois avant les élections municipales, ambitieux. Où est le peuple? À l'Assemblée, à Matignon ou dans la rue, alors que même le MEDEF appelle lui aussi à la mobilisation contre des hausses d'impôts. Nous avons une heure pour en discuter avec vous, Didier Mauss. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes professeur de droit constitutionnel. Juste à côté de vous, Samuel Ayat. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS à Sciences Po, historien et politiste spécialiste des mouvements sociaux. Votre œil et votre regard seront très intéressants dans le cadre de cette émission. Et je cite votre ouvrage qui répond aussi à notre interrogation, Démocratie, chez Anna Mossa en 2020. En face de vous, Blanche Le Ridon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Et Anne Rosenchère.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée du magazine L'Express. Alors, peut-être j'ai envie de vous poser la même question à tous les quatre pour débuter cette conversation. Un mot pour définir la semaine que nous venons de vivre. Didier Mauss.
Intéressante.
Samuel Ayat.
Déconnexion.
On va en parler. Blanche Le Ridon.
Sanction avec un S. Peut-être que je pourrais développer un peu plus tard.
Et Anne, Rosenchère.
Éprouvante.
Eh bien, ça commence bien avec beaucoup d'optimisme. Alors, on commence avec vous. Allez-y, Blanche Le Ridon. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, sanction avec un S, parce qu'on a assisté au moins à 4 sanctions cette semaine qui émanent d'émetteurs assez différents. Déjà, lundi, sanction parlementaire à l'égard du gouvernement de François Bayrou qui est tombé et qui n'a pas réussi à obtenir la confiance du Parlement. Et puis, dès le lendemain, une sanction de l'opinion publique pour le nouveau Premier ministre nommé par Emmanuel Macron, puisque si l'on se fie aux enquêtes d'opinion qui ont été menées dès sa nomination, la popularité de ce nouveau Premier ministre, elle est autour de 34%. Il faut rappeler que celle de François Bayrou était à 40% au moment de cette nomination, et celle de Michel Barnier à 51%. Et on n'est pas juste dans une arithmétique qui voudrait que, à mesure que le président nomme et renomme des premiers ministres, cette confiance affaisse. Non, puisque on voit que, par exemple, pour Gabriel Attal, on avait une confiance au tout début qui était beaucoup plus importante que pour Elisabeth Borne. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre votre nomination plus tard dans le mandat et la confiance que vous recevez en étant nommé. Je continue ma litanie des sanctions. Évidemment, le 10, sanctions qui viennent de la rue, sanctions de la politique notamment sociale du gouvernement, et on aura l'occasion d'en reparler, parce que je dis la rue de façon très générale, mais il s'agissait d'une certaine forme de mobilisation et d'acteurs qui ont été sollicités publicité à ce moment-là. Et puis enfin, sanction par l'agence de notation Fitch. Et là, on est sur de la sanction économique. Donc on voit en réalité cette quadruple sanction dans cette semaine quand même relativement hors norme. Hein. Je crois que c'est arrivé peu dans l'histoire de notre 5e République qu'en une semaine, on est à la fois à la chute d'un gouvernement, la nomination d'un nouveau gouvernement, une mobilisation avec tout de même 200 000 personnes, on y reviendra. Et puis cette sanction par les agences de notation, enfin par l'agence Fitch, qui a dégradé la notation de la France.
Didier Mauss, Sébastien Lecornu, c'est le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron en 8 ans. Ce record-là, seul François Mitterrand le détient, mais en 14 ans oui. Et avec deux cohabitations.
Honnêtement, on est dans une situation que je veux qualifier d'intéressante, parce que bon, c'est assez neutre comme ça, et pour les observateurs, ça permet de regarder, mais elle est quand même très exceptionnelle. C'est évident, ça, j'allais dire. Il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent que la machine politico-institutionnelle marche moins bien qu'avant. Bon, voilà, on va pas dire le contraire. Alors, je sais pas s'il faut aller jusqu'à 4 sanctions. Moi, je trouve que le mouvement dans la rue, le 10, a été relativement limité. 200 000 personnes, c'est pas beaucoup. J'ai pas du tout senti qu'il y ait un blocage nulle part, quelque part. Bon, mais en tout cas, on est dans une situation politique dont on connaît bien l'origine, les causes, bon, qui n'est pas terminée. Voilà, mais c'est un chapitre de plus. Tout découle en réalité de la dissolution. Voilà, il faut pas s'étonner de la situation de cette semaine. Bon, et les mouvements sociaux, ça a commencé en 2018 avec les gilets jaunes. Alors on nous dit que M. Lecornu va remettre ça sur le devant de la scène. Tant mieux, parce que, je m'arrête après, un des grands échecs d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir tenu compte du grand débat. Si vous... Moi j'ai été étonné, hein. J'étais maire d'une commune à l'époque. Bon. Et donc on a organisé nos grands débats, et à la fin je leur ai dit, on va en refaire un dans 2 ou 3 mois pour voir les conclusions. Moi, j'ai jamais fait.
Anne Rosenchère.
Alors moi, j'ai dit éprouvante, parce que je pense que depuis singulièrement, on reviendra sur les gilets jaunes et sur les cahiers de doléances et le grand débat, et ça, vous avez tout à fait raison, mais depuis singulièrement le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, où il a été élu sans majorité pour gouverner dans la foulée à l'Assemblée nationale, la nation est dans une situation qui peut être inquiétante, quand même, on y reviendra, et la société dans une situation éprouvante. Il y a eu la dissolution, qui a quand même mis les gens dans un état... presque de psychologie politique borderline parfois. Il y a eu un Premier ministre nommé au bout de 2 mois qui est tombé sur une motion de censure, qui au résultat d'alliance entre deux oppositions qui n'ont rien à voir entre elles. Le Premier ministre tombé sur une motion de censure a été remplacé par un Premier ministre qui vient de nous sortir un vote de confiance surprise où bon, à chaque fois on avance comme ça à tâtons, et je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect éprouvant que cela peut avoir pour la société qui, ma foi, bon, est solide, hein, mais avance dans une certaine angoisse, alors même que les crises extérieures et même un peu intérieures se multiplient. Dans la même semaine, on a cette impression de majorité introuvable, de etc. Il y a des drones russes qui survolent la Pologne. Il y a un assassinat politique aux États-Unis. Je parle sous le contrôle du professeur Mauss. La Ve République, il y a plein de choses qu'on peut dire d'elle, bien entendu, c'est extrêmement complexe, mais il y a quand même une volonté de la part des constituants, tous les constituants, de dire qu'une démocratie doit toujours pouvoir être gouvernée. Il y avait quand même un peu ce traumatisme de la fin de la 4e République, où on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas gouverner. Or, l'idée du général de Gaulle, de Debré, et même de tous les autres constituants, était de dire, mais vraiment, si on ne veut pas être dans un état de fragilité par rapport aux crises extérieures et intérieures, il faut qu'une démocratie soit toujours en situation d'être gouvernée. Or là, depuis quelques années, on a l'impression qu'on est quand même gouverné en mode très dégradé, très très dégradé. Et que plus on avance, plus on sent qu'on perd des leviers dans un moment qui, à l'extérieur et même parfois à l'intérieur, peut être un peu inquiétant.
Samuel Ayat.
Oui, je pense que le problème de la difficulté de gouverner une démocratie, c'est qu'effectivement, vous devez la gouverner, mais vous ne devez pas la gouverner sans le peuple ou contre le peuple. C'est-à-dire que n'importe quel État doit être bien gouverné. Le pari démocratique, c'est qu'il n'est pas fait sans le peuple. Or, le problème, c'est que ça ne date pas d'il y a 2 ans. Emmanuel Macron est dans une recherche permanente de gouverner sans le peuple. Et de ce point de vue-là, il est dans la continuité de ce qui a pu exister sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la volonté que lorsqu'il y a des personnes qui s'expriment par la rue, on ne va pas les écouter, on va quand même faire passer nos réformes parce qu'on considère qu'on a un mandat. Et on voit bien comment est-ce que de ce point de vue-là, l'absence de majorité parlementaire actuelle vient renforcer ce hiatus entre le besoin en démocratie que le peuple s'exprime et soit écouté, et le besoin pour tout État d'être gouverné. Parce que face à cette absence de majorité, vous n'avez pas 1 million de choix. Soit vous tentez de passer à toute force, ce que fait Emmanuel Macron sans majorité, sans même de socle commun sur lequel s'appuyer, qui soit suffisamment cohérent et suffisamment étendu. Donc vous appuyez sur cette espèce de force de gouverner, soit vous écoutez le peuple, et de ce point de vue-là, on a l'impression que le pouvoir actuel n'arrive pas à réconcilier les deux.
Alors merci pour ces propos introductifs qui laissent présager une émission très intéressante, même si ça me laisse un peu d'angoisse, moi, de mon côté, mais c'est pas grave. On va prendre les choses dans l'ordre, puisqu'on pose la question de où est le peuple. Première chose, est-ce qu'il est à Matignon, entre guillemets ? C'est-à-dire, est-ce que cette nomination de Sébastien Lecornu peut répondre à une aspiration des Français ? Blanche Leridon.
Comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, ils ne lui font pas confiance. Et je disais, un tiers des Français seulement qui a confiance en lui. Ils sont encore moins nombreux à avoir confiance dans sa capacité à former un gouvernement et à trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Après, on en est au tout début, donc moi je ne veux pas le sanctionner avant qu'il ait eu l'opportunité de faire ses preuves. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant à nommer, au lendemain de la chute d'un gouvernement auquel il appartenait, un de ses plus fidèles lieutenants qui a participé à l'ensemble des gouvernements depuis 2017. Donc je comprends que certains aient pu utiliser les mots de provocation à ce moment-là, dans la mesure où, encore une fois, le gouvernement de François Bayrou auquel il appartenait venait d'être sanctionné, et lui, on le nomme à nouveau. Et puis, pardon, mais il y a eu... On se rapproche plus en plus du cœur du macronisme à mesure que les premiers ministres se succèdent. Michel Barnier était par définition un tout petit peu plus éloigné de lui, puisqu'il appartenait à un autre groupe politique. François Bayrou, on savait que c'était un compagnon de longue date, mais il appartenait à un autre groupe politique. Là, on a quand même quelqu'un qui, depuis 2017 et même un petit peu avant, depuis la campagne présidentielle, est auprès du président, auquel il a rappelé d'ailleurs toute sa loyauté dans l'entretien qu'il a donné hier à la presse quotidienne régionale. Donc non, on ne peut évidemment pas dire que le peuple aujourd'hui est à Matignon ou qu'il s'y sent représenté. Moi, je suis assez frappée j'ai fait un petit peu d'archéologie très récente, médiatique, sur la façon dont on avait commenté les débuts de Michel Barnier et de Sébastien Lecornu. Les formules sont quasiment les mêmes. On loue les grandes capacités de négociation, l'humilité de l'un et de l'autre, l'humilité du Premier ministre et Michel Barnier et Sébastien Lecornu, qui se rend à l'Assemblée nationale, qui est un signe de dévotion, de respect à l'égard de l'institution et de sa présidente Yaël Braun-Pivet. Les deux se rendent quand même, c'est intéressant, Sébastien Lecornu était à Mâcon hier pour son tout premier déplacement officiel sur le thème de la santé, qui est un thème absolument nécessaire et impérieux pour l'avenir du pays. Michel Barnier avait fait exactement la même chose à l'hôpital des enfants malades à Necker, dans le 15e arrondissement. Michel Barnier avait lui aussi émis l'hypothèse que potentiellement il allait peut-être augmenter la fiscalité pour les plus gros patrimoines, et ça avait tout de suite été sanctionné. Monsieur Lecornu formule à peu près la même hypothèse. Ils disent l'un et l'autre qu'ils veulent être en rupture, qu'ils veulent changer de méthode. Bon, pour l'instant, je comprends qu'il y ait un certain scepticisme de la part des Français, sachant qu'on est dans la répétition quasi à l'identique de ce qui a échoué il y a quelques mois encore.
Didier Mauss.
Écoutez, la question, est-ce que le peuple est à Matignon ? La réponse est non. Et sauf les périodes de cohabitation, où effectivement le peuple est à Matignon, parce que le Premier ministre est le vainqueur des élections législatives, la logique institutionnelle n'est pas que le peuple soit à Matignon. Le Premier ministre n'est pas investi par le peuple, il est investi par le président de la République, et il fait en sorte de ne pas être renversé par l'Assemblée nationale.
Et qui lui-même est investi par le peuple. Pardonnez-moi, Didier Mauss, de vous couper, mais le président de la République tire sa légitimité du peuple, quand même.
Oui, absolument, mais le Premier ministre n'est pas légitime en première ligne. Il la détient par transmission. Je voudrais revenir à un mot de ce qui a été dit tout à l'heure sur Monsieur Macron. Moi, je considère que le vice du système, il vient de 2017. Car en réalité, au second tour de 2017, nous avons été privés d'un débat programmatique. D'un côté, il y avait Madame Le Pen, dont les chances de gagner étaient, je dirais pas nulles, mais faibles. Bon, et de l'autre côté, il y avait Monsieur Macron qui considérait qu'il dominait intellectuellement le paysage. Et on n'a pas vu ces empoignades de second tour qui ont été le cas précédemment, Giscard, Mitterrand, etc., etc., où on avait deux politiques qui s'affrontaient. Et donc, Emmanuel Macron a considéré qu'il avait un mandat politique qui, en réalité, n'existait pas. Et si on replonge dans l'analyse, alors j'ai peut-être tort, mais enfin bon, on est ici pour émettre des hypothèses. Moi, je considère que l'intérêt du grand débat en 2018, c'était la non-campagne de 2017. Et on s'est déballonné. J'ai été frappé, j'ai assisté à un certain nombre de débats, ceux que j'ai eus de chez moi et d'autres. Et visiblement, il y avait des propos qu'on aurait dû tenir dans le cadre d'une campagne électorale. Et M. Macron s'est trompé, je crois, intellectuellement. Il n'avait pas le mandat de faire ce qu'il voulait faire.
Anne-Rose Enchard.
Je suis assez d'accord, je vais développer ce que vient de dire Didier Mauss. Quand on dit où est le peuple, normalement le peuple s'exprime en démocratie, le peuple s'exprime dans les urnes, vox populi, vox dei, De Gaulle qui dit sa voix pour moi sera sacrée, etc. Simplement, depuis maintenant plusieurs années, et en effet ça aboutit à ce que vous décrivez sur le débat de 2017, mais en vérité, la plupart des partis traditionnels, enfin tous les partis traditionnels, ont commencé de miser pour l'emporter dans les urnes sur le Front républicain. Donc, finalement, ils ont un peu cessé de se demander où était le discours majoritaire du peuple. Ils ont arrêté de se demander ça parce que finalement, il leur suffisait d'arriver à 20-22% le ticket de pour se faire sélectionner au premier tour. Et puis après, ils bénéficiaient du Front républicain pour pouvoir être élus sans avoir à chercher la majorité de Français. Ce qui est à la fois, je dirais, une trahison du fait politique, hein, qui normalement va chercher le discours majoritaire et va chercher à prendre en soi, puis après à digérer, à proposer, mais le diagnostic de la majorité des Français, mais qui en plus était quand même très inconséquent dans la façon dont il abandonnait au Rassemblement National la stratégie majoritaire, parce que c'est le seul qui ne peut pas compter sur le Front républicain pour l'emporter et pour cause. Donc ils sont obligés, avec, moi je pense, beaucoup de démagogie, mais néanmoins, d'aller construire ce discours majoritaire sur tout un tas de sujets, ce qui est aujourd'hui extrêmement dangereux, qui nous met dans une position où, en effet, vous avez des majorités introuvables, parce que celui qui petit à petit construit une majorité qui, pour l'instant, ne l'est pas, puisqu'il y a encore ce rejet des Français, et on l'a vu aux dernières législatives, le Front républicain a fonctionné. Néanmoins, on est dans une crise en cela de la représentation démocratique, je pense, qui a été vraiment pervertie. Et en effet, là, je rejoins totalement Didier Mauss sur les gilets jaunes et les cahiers de doléances. C'est une inconséquence totale. À ce moment-là, vous saviez un peu où était le peuple. Alors, c'était un échantillon qui vaut ce qui y vaut, mais c'était quand même incroyable dans l'histoire des mobilisations sociales. Ce truc qu'on n'avait pas vu venir, qui tout d'un coup émerge sur les ronds-points, qui est des échantillons. Vous aviez des femmes célibataires, enfin des mères célibataires, soignantes, des petits chefs d'entreprise, etc. C'était sociologiquement et politiquement extrêmement bigarré. Emmanuel Macron invite tous ces gens dans le grand débat, dans les cahiers de doléances, dit « j'en rendrai compte devant vous » et puis plus rien. Mais à un niveau de mépris et de désinvolture démocratique qui, franchement, je pense, en effet, a été une énorme erreur du président de la République. Heureusement que la société civile s'est un petit peu mobilisée. On a depuis des chercheurs des journalistes dans tous les coins, ça s'est mobilisé pour essayer de faire les grandes recensions qui nous apprendront des choses et qui seront intéressantes. Mais politiquement, la cartouche a été perdue et même, ça a été, je pense, un moment de ressentiment terrible dans le pays.
toutes les contributions, y compris dans un cahier de contributions dans une petite commune au fin fond de notre ruralité bien-aimée, sera traitée. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On se souvent dit
que ça traité, ça veut dire sera lu.
Sera lu, exactement. D'accord. Ça veut dire que rien ne sera perdu. La deuxième des choses, c'est que tout doit être en transparence totale. Les garants y sont extraordinairement attachés, nous aussi. Certains appellent ça l'open data. L'idée, c'est que on veut pouvoir mettre sur la plateforme tout en transparence. Tout doit pouvoir être consulté par tout le monde. Rien de caché, on ne garde rien pour nous. Troisième principe, c'est bien sûr avoir une analyse qui soit la plus robuste, la plus sérieuse possible, et je le dis parce que ça n'a jamais été dit publiquement, la plus universelle possible. Ça veut dire que nous, le gouvernement, nous allons évidemment prendre des prestataires qui vont faire l'analyse de toutes ces remontées du terrain, mais vous aussi, par exemple France Inter, ou les assemblées parlementaires, ou des ONG, etc., pourront également bénéficier de toute cette matière et procéder à leur propre analyse, là aussi transparence totale.
Ça fait mal les archives en politique. C'était pour rebondir sur ce que vous nous disiez, Anne Rosenchère. Vous avez reconnu cette voix, celle de notre Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, qui était le 30 janvier 2019, en sortie de crise des Gilets jaunes, invité de France Inter, ministre des collectivités territoriales. Encore une promesse non tenue. Samuel Ayad, votre regard là-dessus.
Ce qui s'est passé au moment du grand débat national, il faut resituer avant le moment de l'oubli postérieur à ce grand débat, il y a un vice de forme dans le grand débat national lui-même. À savoir que il, normalement, aurait dû être organisé par la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, ce que le pouvoir à ce moment-là refuse totalement, c'est-à-dire que dès le départ, il veut garder la main totalement sur ce dispositif. De ce point de vue, oui, c'est une occasion manquée, mais parce que Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont jamais eu pour but de créer et de faire émerger une véritable consultation populaire. Ils ont à ce moment-là pour but, et c'est compréhensible vu leur objectif de maintien de l'ordre, d'arrêter un mouvement. Arrêter un mouvement par la répression, qui a été exceptionnellement violente, la répression des manifestations, mais aussi la répression des ronds-points, la répression de cette sociabilité populaire qui s'était construite, par la répression donc, mais aussi en donnant une sorte de solution politique qui aurait pu vouloir dire quelque chose, mais qui en réalité était pensée dès le départ comme une manipulation. Ensuite, on a des cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances, ils sont traités par une entreprise qui rend un rapport d'expert. Ils sont mis ils sont versés aux archives et non consultables. Et il a fallu des années de mobilisation pour que désormais ces cahiers soient consultables. Mais là, c'est vraiment lié à une difficulté. C'est-à-dire qu'en démocratie, le peuple ne s'exprime pas que par les urnes, parce que ça, des régimes dans lesquels le peuple s'exprime par les urnes, il y en a beaucoup de non-démocratiques où c'est le cas. Il s'exprime aussi par, justement, la rue. Il s'exprime par des organisations. Il s'exprime par toute une série de choses. Et au moment du mouvement des Gilets jaunes, mais comme on l'a vu dans toutes les années 2010, dans énormément de pays. Ce qui est compliqué, c'est que vous avez une sorte de mouvement qui se veut être un mouvement populaire, un mouvement du peuple lui-même, en dehors des organisations qui normalement portent sa parole. Et ça, c'est difficile parce que dans nos institutions, il n'y a pas de moyen de laisser une place à cette parole populaire hors système. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Anne à l'instant, c'est-à-dire il y a une occasion manquée, qui est terrible, mais qui, je pense, a été manquée parce que dès le départ, elle est pensée comme une manipulation.
Surtout quand on prend ce qu'avait fait Opinionway quand même avec les contributions en ligne, c'est-à-dire les sujets qui émergeaient de ces doléances. Je vous en donne trois qui quand même ont un écho étonnant aujourd'hui. Restaurer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Établir la proportionnelle, 86% des Français interrogés, enfin qui ont contribué. Et enfin, rapprocher l'administration et les fonctionnaires de la réalité des territoires. Et c'est sans doute pour ça que Sébastien Lecornu, qui était en première ligne, on vient de l'entendre, nous propose désormais un nouvel acte de décentralisation. Je vous donne la parole, Didier Mauss, dans un instant, mais j'ajoute quand même que si mes cours, parce que moi je m'en souviens pas en tant que journaliste, sont exacts, les deux actes de décentralisation qu'on a eus se sont toujours produits après une élection présidentielle et une majorité pléthorique 2003 et 82.
Écoutez, moi, je continue à être frappé par l'erreur d'analyse, en réalité, d'Emmanuel Macron. Et ce que vous disiez sur le fait que le peuple s'exprime en dehors des circuits traditionnels, ça l'a beaucoup frappé. Et il a essayé de récupérer ce mode d'expression institutionnel. Bon. Et c'est par exemple les conventions citoyennes, etc., qui ont été des fiascos absolus. Il faut voir les choses comme elles sont. Prenez celle sur l'écologie. Bon, les gens ont proposé des choses, on n'a rien fait derrière. Bon, et parce qu'on ne pouvait pas faire derrière. Et si vous voulez, M. Macron a cette obsession de ne pas passer par les circuits traditionnels de la décision et de la politique. Alors, il a peut-être raison sur le fond, il a peut-être ses raisons, mais il faut bien un moment que la décision revienne de manière normale et légitime vers ceux qui vont voter, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux, etc., etc. Dernier mot sur le grand débat. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'en ai organisé, j'ai fait, je crois, 4 ou 5 réunions, ce qui était très bien. 15 jours avant la fin du débat, 15 jours, nous recevons une lettre, une circulaire de la préfecture, envoyez-nous vos conclusions. Ben, moi, je leur ai répondu, tant que le débat n'est pas terminé, j'avais encore 1 ou 2 réunions à faire, je ne peux pas vous envoyer de conclusions. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient pouvoir annoncer le soir même quelque chose. Comme il n'a rien annoncé, c'est moi qui avais raison.
Et sans parler, je vous donne la parole, Blanche Loridon, du coup, hein, du grand débat, 12 millions d'euros, à l'heure où on cherche des économies. Allez-y.
Je voudrais revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Moi, je parlerai pas de fiasco pour l'ensemble des conventions citoyennes. Je crois que la convention citoyenne sur la fin de vie, notamment, elle a notamment permis aux débats parlementaires qui ont suivi, de se passer dans des conditions que j'ose qualifier de remarquables. On en a très peu parlé parce qu'on était aussi obnubilés par, il est vrai, le reste de l'atmosphère parlementaire qui était délétère toute l'année dernière. Mais quand même, sur ce sujet-là, je pense que la Convention citoyenne a eu des vertus parce qu'elle a permis progressivement d'apporter dans le débat un sujet extraordinairement sensible, compliqué, et qu'elle a permis d'une certaine manière aussi à la discussion parlementaire d'aboutir dans de bonnes conditions.
Pas
abouti encore, mais ça, c'est malheureusement
ça, c'est le blocage parlementaire.
Du blocage qui en a suivi. Mais oui, ce que disait Samuel Hayet, ce que vous avez dit ensuite, est très juste. Le principal problème, c'est si à la limite, vous dites non, je ne veux pas écouter le peuple. Mais là, c'est la promesse qui est formulée, c'est de dire je vais vous écouter, je vais faire les cahiers d'oléances, oui, je vais faire le grand débat, je vais faire les conventions citoyennes, et de ne rien en faire. Et c'est ce décalage immense, ce hiatus entre la promesse qui est formulée et les réponses qui sont apportées, qui nourrit la défiance, et je crois qu'on va en parler dans un instant. Et c'est ça peut-être le drame. Vous avez cité, Astrid de Villene, les grandes propositions et revendications qui avaient émergé du peu qu'on a pu tirer des cahiers de doléances, l'ISF, la proportionnelle, rapprocher l'administration de la décision. C'est hyper intéressant de voir à quel point les sujets économiques relatifs au pouvoir d'achat, à la justice sociale et fiscale sont très vite assortis de revendications qui ont trait à notre système démocratique et à la façon dont on fonctionne. Et on le voyait encore dans Bloc-Contou, on le voyait dans les Gilets jaunes. Souvenez-vous, une des principales revendications des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Dans Bloc-Contou, très vite, quand vous regardiez les mobilisations, on disait fin du 49-3. Donc il y avait cette demande de davantage de reconnaissance, de pouvoir d'achat, mais très vite aussi, on pointe du doigt ces dysfonctionnements démocratiques profonds. Et ça, il faut que ces Sébastien Lecornu l'entende. Et c'est vrai, et comme vous le disiez, les archives radiophoniques ne pardonnent pas quand on a été celui qui a affirmé avec autant d'assurance que l'ensemble, en plus en décrivant par le menu tout un processus de prise en compte de ces cahiers de doléances-là, et quand on voit où on en est, allez, on peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris compte de tout ça. Et puis, dernier mot aussi pour comparer avec la situation de 2018, faut pas oublier qu'en 2018, la légitimité du président de la République, elle est pas aussi atteinte qu'aujourd'hui. Il est à peine en deuxième année de son mandat. Il bénéficie aussi, et ça n'est pas neutre, de finances publiques infiniment plus disons favorables que elles ne le sont aujourd'hui. On est à peu près à 2,5% du PIB de déficit public. Aujourd'hui, on avoisine les 5,5, les 6%. Donc on n'a plus du tout les mêmes marges de manœuvre pour répondre potentiellement à ce type de mouvement social.
Anne Rosenchard, d'un mot.
Oui, mais moi je suis d'accord pour dire que ça nous permet de faire une transition avec la question de la crise de confiance, parce que c'est clairement là, je pense, un des diagnostics importants sur lequel il faut qu'on s'arrête, c'est la crise de confiance. On a l'impression que c'est un peu cliché comme ça, que c'est un terme qui revient dans le débat depuis longtemps, mais c'est assez grave quand même, une crise de confiance en ce qui concerne la politique, parce que c'est le principe du mandat, c'est qu'on vous fait confiance pour agir dans l'intérêt général. Or, si on commence à se dire que finalement, les mots des politiques sont des mots en l'air, des mots soit de manipulation, soit de récupération, en fait quelque chose qui vise autre chose que ce que le sens qu'ils ont, c'est-à-dire je vais dire ça parce que ça m'arrange, parce que je vise telle chose, mais en vérité je pense pas ce que je dis. Et ça c'est vraiment exprimé à ce moment-là, et juste petite expérience personnelle, parce que ça va permettre de voir pourquoi la défiance vers les politiques s'effondre. Par exemple, les fractures françaises, la grande enquête de l'Ipsos montre que, par exemple, pour l'Assemblée nationale, en 2017, il y avait 33% de confiance, ce qui n'était pas énorme. Maintenant, on est tombé à 22%. Donc, c'est quelque chose qui se dégrade au fur et à mesure que la confiance dans d'autres types de pouvoir ou d'institutions monte. Par exemple, les grandes entreprises. C'est très surprenant en France, quand même. Hein. Les petites entreprises ont toujours bénéficié de la confiance, mais les grandes, pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'intérêt général. Et c'est là où je boucle sur ma petite expérience sur le grand débat et les cahiers de doléances. C'est qu'il y a un an et demi à peu près, éclairé de ce qu'on n'avait absolument rien fait de ces cahiers de doléances et du grand débat, j'ai une connaissance, qui est d'ailleurs aussi professeur à Sciences Po, Hugo Micheron, qui a monté un logiciel, enfin un outil d'intelligence artificielle, et qui dit « Mais moi, je peux, grâce à cet outil, commencer vraiment de faire la première grande recension, déjà en commençant par les contributions numériques, mais comme les cahiers ont été numérisés, on pourra aussi le faire sur les doléances. Il fait le tour, mais vraiment le tour. Hein. Bon, bien sûr, de l'État, machin, personne ne le reçoit, enfin, il le reçoit, mais ne donne. Il fait le tour de... Et donc, on finit par faire un peu de barouf, à Radio France, notamment. Et c'est en effet la fondation BNP Paribas qui a fini par financer. Donc il y a cette espèce d'idée de dire que finalement l'intérêt général n'est plus assez garanti par l'action des pouvoirs publics, et qu'elle doit, mais qu'on est obligé de prendre le relais, en fait. Et ça, c'est quand même un moment inquiétant aussi.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Nous sommes toujours sur France Culture en compagnie de Didier Mauss, constitutionnaliste, Blanche Le Ridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, Anne Rosenchère, qu'on vient d'entendre, directrice déléguée du magazine Express, et de Samuel Hayat, chercheur CNRS à Sciences Po, auteur de Démocratie aux éditions Anamosa 2020. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, Samuel Hayat, c'est que vous faites le lien entre la crise de la démocratie et les injustices fiscales. Qu'elles soient réelles ou vécues comme telles, c'est le ciment des révoltes dans l'histoire, mais aussi dans le monde.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans la question fiscale l'incarnation du sentiment de solidarité qui fait tenir ensemble une société et qui donne un sens à ce peuple qui est au cœur de l'idée démocratique. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un discours qui m'a frappé ces dernières semaines et ces derniers mois autour de la question de la taxation des plus riches, et notamment de cette fameuse taxe Zucman. Ce qui est cette idée de taxer 2% du patrimoine des 1800 foyers les plus riches, je crois. C'est que la réponse de l'État, qui a été réitérée plusieurs fois par François Bayrou, qui a été, là encore cette semaine, Gérard Larcher a dit la même chose, a dit « Mais si on fait ça, ils vont partir ». Et je pense que les personnes qui tiennent ce discours ne se rendent pas compte de l'effet que ça a quand vous faites partie des 99% de Français, de Françaises ou d'étrangers résidant en France et qui payent leurs impôts, vous entendez qu'il y a des gens, si on les taxe, ils vont partir. Et pas n'importe qui. Les plus fortunés qui ont vu, alors si on pense là, par exemple, ça, ce chiffre très impressionnant, des 500 plus grandes fortunes qui ont été dont le montant a été multiplié par 9 en 20 ans. Et on se dit, ces gens-là, si on les taxe, ils vont partir. Et non seulement ça crée un problème de sentiment d'injustice sociale très très marqué, mais quand l'État vous dit, et du coup on va pas les taxer, ça veut dire que l'État dit... Eh ben, au mépris de l'intérêt général ou de la solidarité, je vais m'aligner avec ce groupe qui est du coup désigné comme sécessionniste, hein, qui risque de faire sécession avec la République si on les taxe, je vais m'aligner sur eux et je ne vais pas les taxer. Et là, on est sur quelque chose, il n'y a pas besoin d'être très historien pour le dire, qui fait vraiment penser à la crise fiscale de 1788-1789, où vous avez une noblesse qui refuse d'être taxée et un État qui dit, bah, puisqu'on ne peut pas les taxer, on ne va pas le faire et on va chercher l'argent, encore et toujours, sur le tiers-État. Ça crée le sentiment qu'il y a une classe qui est hors, comme disait l'abbé Sieyès, hors de la nation, et on dirait aujourd'hui hors du peuple.
Didier Mosse.
Moi, ce qui me frappe dans cette histoire de taxe Zucman, bon, c'est ce que vous dites, mais c'est aussi le fait que M. Bayrou, tant qu'il était Premier ministre, dit « cette taxe est inconstitutionnelle ». Bon, je veux bien qu'on le dise, mais je n'ai pas encore compris pourquoi.
J'ai entendu Gérard Larcher, le président du Sénat, le dire.
Voilà. Non, mais si vous voulez, on ne peut pas asséner un motif de ce type. Il faut le démontrer. Alors, c'est possible que ce soit inconstitutionnel parce que 2%, c'est beaucoup, etc.
Ce serait confiscatoire, mais
le Conseil constitutionnel est très attentif à ça, c'est vrai. On a déjà annulé le bouclier fiscal, des choses comme ça. 2012. Mais dire sans s'expliquer pourquoi ça serait inconstitutionnel, c'est quand même un manque d'explication et de transparence intellectuelle. Même moi, j'ai pas encore compris.
Mais c'est
Blanche Leridan.
Moi, je trouve que tout de même, si j'essaie de trouver des petits moyens un petit peu de voir les choses du bon côté, il y a dans la première fois depuis un an dans notre pays un vrai débat sur la justice fiscale, sur effectivement le caractère ou non constitutionnel de cette taxe. Qu'est-ce que c'est confiscatoire? Et je trouve qu'il y a quand même... Pour une fois, on ne parle pas seulement de qui a déjeuné avec le Rassemblement National. Est-ce que le PS va, oui ou non, voter avec les Insoumis? Et de petites manipulations politiques qui, et ça rejoint totalement ce que disait Anne Rosenchère à l'instant, nourrissent la défiance parce que sentiment d'immense décalage entre les préoccupations des Français et ce qu'il se passe dans l'hémicycle et dans la vie politique en général. Donc la vertu, je trouve, autour de ces débats-là, c'est que pour une fois, on débat de sujets qui sont fondamentaux, qui intéressent absolument tout le monde et sans... Et avec de vraies interrogations, vous le reconnaissez vous-même, il y a eu effectivement des études économiques la semaine dernière qui prouvent que finalement l'exil fiscal serait pas aussi important que ce que certains annoncent. Il y a aussi des voix qui considèrent que le Conseil constitutionnel pouvait juger, comme il l'avait fait en 2012, que cette taxe-là serait confiscatoire. Moi, je trouve que ces débats-là, ils sont sains. Et encore une fois, ça va... petit à petit, mais je trouve que progressivement, on réinjecte des éléments de débat de fond dans le dialogue politique qui est dans notre pays. Le fait que le Parti Socialiste ait proposé un contre-budget, qu'il ait fait cet effort-là, le budget, on sait que c'est le moment le plus politique, ça définit votre ADN, votre carte d'identité politique dans un paysage donné. Donc moi, je trouve quand même intéressant qu'on ait aujourd'hui un vrai débat de fond sur ce sujet-là, porté par un économiste, vous avez des prix Nobel qui prennent la parole, et à tous les niveaux de la société, c'est pas uniquement un débat d'intello, et ça, je trouve que pour la vitalité du débat démocratique dans notre pays, c'est quand même une bonne chose.
Anne Rosenchère, c'est vrai que ce débat sur la taxe Zucman, peut-être, j'ai repris un sondage du mois de juillet, 74% des Français favorables à la taxe Zucman. Ça semble être la mesure la plus populaire. Pourquoi les politiques n'y vont pas, à votre avis ?
Mais il y a plusieurs choses. Je pense que, en fait, il faut réussir à décorréler deux choses. Il y a la question de la justice fiscale, c'est-à-dire qui paye et à quelle hauteur. Est-ce que chacun contribue, entre guillemets, à la hauteur de ses moyens, ou est-ce que certains optimisent, etc. Et donc ça, c'est clairement ça que la taxe Zucman essaye d'adresser, comme on dit avec les mauvais mots d'anglais, comme problème. Et après... Et c'est pour ça que dans le camp libéral que je comprends, il y a aussi la question de la pression générale fiscale, qui est une autre question en fait. On ne peut pas dire que la France est un paradis fiscal, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression fiscale en France. On est un des pays où les prélèvements obligatoires, si ce n'est le pays de l'OCDE, où les prélèvements obligatoires sont le plus important pourcentage du PIB. Donc la question d'ailleurs... que posaient les gilets jaunes, première mouture, ce dont on parlait avant, n'était pas pourquoi ne paye-t-il pas plus en haut, c'était où va l'argent. Parce que quand on a généralement un pays avec cette pression fiscale-là, que les Français, globalement, sont plutôt prêts à accepter beaucoup plus que d'autres nations, parce que c'est notre ADN culturel, philosophique, politique, mais... ils ne sont pas prêts à l'accepter si par ailleurs on a une école publique qui dégringole et qui ne tient plus ses promesses, si on a par ailleurs un hôpital qui est complètement dégradé par rapport à ce qu'il devrait être compte tenu de cette pression fiscale, etc. Et donc ça, c'est un autre problème, je dirais, qu'il faut Je pense qu'il faut avoir, le courage d'ouvrir tous les dossiers en même temps. Si on ouvre quelques dossiers, à chaque fois, vous avez un camp qui hurle en disant « Comment vous pouvez encore vouloir inventer un nouvel impôt alors qu'on est le pays ?» Et après, si vous ouvrez l'autre dossier des retraites, on vous dit « Mais comment vous pouvez ?» Il faut ouvrir tous les dossiers en même temps, car nous sommes ici aujourd'hui dans une situation qui n'est pas... qu'on ne peut pas résoudre avec une seule idée, une seule baguette magique. Ce sont des décennies de problèmes qui se sont accumulés.
Et en même temps, on manque de temps. Mais c'est vrai que je partage, j'ai l'impression en ce moment de vivre dans la fin des bandes dessinées Astérix et Obélix, le banquet final. Samuel Agnès et Ayad, votre regard là-dessus, et peut-être préciser aussi que la taxe Zucman, peut-être que tout le monde n'avait pas bien compris qu'il s'agissait aussi de taxer les patrimoines des entreprises. On a vu ce fameux exemple avec Mistral, l'intelligence artificielle qui a circulé toute cette semaine. C'est vrai que c'est peut-être pas la même chose pour les Français qu'on taxe le patrimoine, par exemple immobilier ou productif. Allez-y.
Bien sûr. Non, je reviens sur l'idée, est-ce que la France est un paradis fiscal ? La France est un paradis fiscal pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays, il y a 3 millions de millionnaires. C'est-à-dire, c'est incommensurable avec, dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, où pourtant la pression fiscale totale est plus faible. Mais par contre, vous avez beaucoup moins de riches, et sans parler des ultra-riches. C'est-à-dire, il y a un moment où on peut se demander, certes, où va l'argent, mais on peut se demander comment il est possible qu'il y ait un accroissement aussi important de patrimoine chez les riches et les plus riches, alors même qu'il y a cette pression fiscale. Et de la même manière, on le voit bien, on en a parlé, c'est un paradis fiscal pour toute une série d'entreprises. Nous sommes les champions des crédits sur les cotisations sociales. Donc là, il y a quelque chose à démêler, et le problème, c'est que oui, il faut un débat, mais c'est extrêmement difficile de débattre quand vous avez une partie des gens qui sont au pouvoir qui vous disent il y a une seule solution. Et si ce n'est pas nous, ça sera le chaos. Donc, les conditions du débat, elles supposent qu'il y a à la tête de l'État et dans les institutions, des gens qui acceptent qu'il y a plusieurs voies.
Didier Mauss.
Alors, le débat fiscal, il est ancestral, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que ça touche au porte-monnaie et que, honnêtement, on est attentif à son porte-monnaie. Je suis très frappé, par exemple, dans la question prioritaire de constitutionnalité, qui est une grande invention. Il y a deux domaines où il y a énormément de QPC, le droit pénal et la fiscalité. C'est-à-dire les deux sujets principaux des cahiers de doléances de 1789. Bon, ils n'ont pas changé. Bon, on n'a pas envie d'être embastillé et on n'a pas envie de payer des impôts, je simplifie un petit peu. Mais c'est assez normal. Alors, c'est un débat effroyablement compliqué, on le sait, car on est aussi le pays où il y a la moitié des gens qui ne sont pas concernés par le paiement de l'impôt sur le revenu. Bon, et donc là aussi, régulièrement, il y a quelqu'un qui nous dit ça pose un vrai problème. Bon, de dire... On ne participe pas à l'effort national. Alors, je connais la réponse de l'administration fiscale. Si l'impôt est très bas, ça coûte trop cher de le prélever. Bon, c'est une bonne réponse technique, mais politiquement, ça ne tient pas la route non plus.
Alors, est-ce qu'on a répondu à la deuxième question que je me posais ? Le peuple est-il dans la rue ? Quelques slogans entendus dans les manifestations « Bloquons tout », « La République en marche arrière ». C'était Emmanuel Macron oui. Qui était totalement visé. Celle des Gilets jaunes, reprenons-les, « On veut remettre les pendules à l'heure ».« Mercredi, dans la rue, reprends le contrôle de ta vie, abandonne tes laisses, vivre de son travail, la voix des oubliés ». Est-ce que vous voyez un lien là-dedans ? Et j'ajoute que maintenant, on l'apprend ce matin dans les colonnes du Parisien, le MEDEF aussi veut mobiliser dans la rue contre les impôts avec un grand meeting. Blanche Le Ridon.
Alors, dans la rue, il faut distinguer, je crois, le mouvement du 10, le mouvement du 18 et les mouvements précédents. Le mouvement du 10, si l'on se fie, il y a Antoine Bristel qui a fait une étude hyper intéressante. Alors, avant la mobilisation, mais où il a sondé un millier de personnes via les réseaux, notamment Telegram, sur lesquels il se rencontrait, et qui a bien montré que c'était très très différent du mouvement des Gilets jaunes et pas du tout représentatif du peuple français, que vous aviez un mouvement qui était infiniment plus politisé que l'étaient les Gilets jaunes, les Gilets jaunes qui étaient beaucoup plus éloignés, beaucoup moins politisés que ne l'est ce mouvement-là. Politisés pour la grande majorité d'entre eux avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Beaucoup plus d'hommes, plus jeunes aussi que la population française. Donc c'est pas le peuple qui était dans la rue le 10 septembre. Mais dire cela n'est en aucun cas une façon pour moi de minimiser ou de relativiser l'importance. Vous avez dit 200 000, c'est rien. C'est quand même beaucoup plus que les premières manifestations des Gilets jaunes. On était autour de 100, 120 000. 200 000, c'est pas rien. Et je pense que l'appel du 18 va aussi être extrêmement suivi. Et là, peut-être, va représenter le peuple de façon un petit peu différente et plus large, puisque vous avez beaucoup de syndicats et d'autres mouvements politiques qui se sont solidarisés de ce mouvement-là. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de saisir la nature intrinsèque des revendications. Les Gilets jaunes, le point de départ, il était très clair, c'était cette taxe carbone sur les carburants. Là, les dernières très grandes mobilisations massives, ce sont celles sur les retraites, et là encore, il n'y avait pas d'ambiguïté sur la revendication et sur l'objet de ces mobilisations. Là, et c'est peut-être ce qui est d'ailleurs plus dangereux pour le pouvoir en place, il n'y a pas d'objet, il y avait les deux jours fériés, mais le Premier ministre a annoncé dans... ses interviews à la presse quotidienne régionale hier, qu'il y renonçait. Et heureusement, parce que là, on aurait vraiment fait preuve d'obstination déraisonnable en continuant à promouvoir ces deux mesures-là. Donc, il faut voir autour de quel grand message est-ce que ces mobilisations, est-ce que le peuple va se mobiliser. Et ça, c'est vrai que c'est encore un peu nébuleux à ce stade.
La question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là, là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mid-term à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec.
Emmanuel Macron, depuis l'Élysée, le 18 mars 2019, décidément une année qui nous a inspirés ce matin, en présence d'une soixantaine d'intellectuels, vous vous en souvenez, invités dans le cadre du Grand Débat National, on en parlait. Samuel Hayat, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, et peut-être pour ouvrir un peu, puisqu'il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, quelle solution démocratique, politique peut-on trouver pour sortir de cette crise multiple ?
Alors, une réaction d'abord sur la forme. Il faut se souvenir de ce moment, mais qui en fait a été tout à fait symbolique de ce qui s'est passé au moment du grand débat. C'est-à-dire que c'était un moment où Emmanuel Macron se met en scène devant un parterre d'intellectuels auxquels il répond les unes et les uns après les autres. C'est-à-dire, pendant des heures et des heures et des heures, il tient le micro, il répond à tout le monde. Et de ce point de vue-là, dans le grand débat national, Emmanuel Macron a voulu se présenter comme une sorte d'élu du peuple qui était capable d'aller dans l'arène et, en bras de chemise, de répondre à absolument tout ce que la France pouvait lui dire, dans une forme qui est très, sinon ancien régime, ou en tout cas une forme plutôt plébiscitaire. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un au pouvoir qui tient le langage du plébiscite, qui tient le langage de l'homme providentiel, tout puissant, du despote éclairé, qui va parler directement au peuple, mais lorsque le plébiscite n'est plus en sa faveur, à la différence de Gaulle ou de l'idée qu'on se fait du bonapartisme, il reste. Et il devient un simple, finalement, dirigeant de parti politique qui va privilégier son parti contre la volonté exprimée de la majorité. Donc c'est un moment c'est une archive qui est doublement douloureuse de ce point de vue-là.
Didier Mauss, est-ce que c'est pour ça, à votre avis, que les gaullistes d'aujourd'hui, je prends Jean-François Copé ou Valérie Pécresse, en tout cas les héritiers du gaullisme, demandent à Emmanuel Macron de démissionner dans 6 mois pour éviter, j'imagine, l'article 7 de la Constitution, c'est-à-dire qu'une élection présidentielle anticipée soit organisée si jamais il était poussé dehors, puisqu'il faudrait 20 jours, entre 20 jours et 35, oui, pour organiser une présidentielle, c'est-à-dire très précipitée.
Nous n'avons pas de solution miracle, il faut voir les choses comme elles sont. Hein. Bon, parce que la Constitution est ce qu'elle est, elle prévoit un certain nombre de mécanismes de sauvegarde, un certain nombre de mécanismes d'appui à l'action du président de la République et du gouvernement, mais nous n'avons absolument pas dans notre besace la solution miracle. Au moment de la crise des Gilets jaunes, j'avais vu un des proches collaborateurs de Monsieur Macron, et qui me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit, il faudrait dissoudre et faire passer la proportionnelle et dissoudre pour refaire des élections à la proportionnelle. Ah, il m'a dit, il n'en est pas question, le président ne veut pas l'entendre parler. Bon, terminé. Alors, c'était une façon de s'en sortir, hein, si vous voulez, de changer. Il faut changer la règle du jeu. Et nous n'avons qu'une solution pour changer la règle du jeu aujourd'hui, c'est l'adoption de la proportionnelle pour les élections législatives. Le reste, ça marche pas. Faire un référendum, sur quoi ? Bon, si on fait un référendum sur une matière fiscale, d'abord, on n'a pas le droit. Bon, et ensuite, on est à peu près sûr que les gens diront il faut payer des impôts différents. Donc, on n'a pas de solution. Et je l'ai pas plus que les autres, je le dis franchement. Je crois que la seule solution, si tant est que ça en soit une, c'est d'arriver à tenir jusqu'aux prochaines élections législatives. Ça va être dur. Est-ce que M. Le Cornu va y arriver ? J'en sais rien. Quant à savoir ce qui se passe dans la rue, ce que vous disiez sur M. Macron est tout à fait important. M. Macron est arrivé à l'Élysée sans expérience politique partisane. Bon, si vous voulez. Et il ne sait pas ce qu'est la conciliation au sein d'un parti politique, ce que connaît parfaitement, par exemple, François Hollande, hein, qui est le champion de la synthèse. Et donc, il n'y a pas de parti macroniste. Disons les choses clairement. Moi, je l'ai constaté sur le terrain dès 2017. On avait dans ma circonscription une candidate macroniste. On la connaissait d'Inève et d'Adam. Elle est retournée d'ailleurs après à ses chères études. Et on l'a jamais revue depuis. Donc, on a un vrai problème. Il faut tenir et redonner la parole au peuple, mais par des moyens légitimes. Je termine. Si par hasard M. Macron se prenait l'idée de démissionner, ce qu'il a parfaitement le droit de faire, alors là, il faut dire tout de suite qu'il n'a pas le droit de se représenter. C'est terminé. Il faut qu'il attende la fois suivante. Mais c'est pas 2 mois, c'est 4 mois. Parce que le nouveau président de la République, logiquement, devrait dissoudre à ce moment-là, quel que soit. C'est-à-dire qu'on repart pour 4 mois d'élection. Et honnêtement, qui est-ce qui aujourd'hui a envie qu'on reparte pour 4 mois d'élection dans l'état dans lequel on est ?
Blanche Le Rédan de l'Institut Montaigne.
Sur les solutions, il y a en effet, à mon avis, un mélange de solutions qui relèvent de la mécanique institutionnelle et puis aussi de solutions qui relèvent du comportement du personnel politique lui-même. La proportionnelle, oui, mais la proportionnelle ne résoudra pas tout. Déjà, quel type de proportionnelle ? On sait qu'il y a toute une variété de proportionnelles différentes. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut concilier la proportionnelle et notamment la proportionnelle intégrale avec le maintien de la fonction du président de la République telle qu'elle aujourd'hui ? Ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, vous avez une espèce de contradiction institutionnelle entre donc ça nécessiterait une réforme infiniment plus vaste de nos institutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut se l'interdire, mais il faut avoir bien conscience de cela. Alors, ensuite, deuxième élément, au-delà de la mécanique institutionnelle, c'est bien sûr le comportement des acteurs politiques. Il faudrait retrouver l'équivalent de ce qu'on avait sous la 4e République entre 47 et 51, cette fameuse troisième force, où vous aviez une coalition entre la SFIO, les radicaux, le mouvement républicain populaire, le MRP. Voilà, et c'est, mais bon, on a du mal aujourd'hui, vu les positions très caricaturales et rigides des uns et des autres, à voir comment on pourrait y aller. Alors, il y a quand même des petites avancées. Chacun, on est au début d'une négociation, donc c'est normal que chacun montre un petit peu ses muscles et ses lignes rouges. Et à mesure que la négociation va avancer, moi, je crois que c'est de l'intérêt de tout le monde qu'on trouve une certaine forme d'accord sur ce budget-là, parce que personne n'a intérêt à ce qu'à quelques mois d'une élection municipale qui est très importante, notamment pour le Parti Socialiste et pour les Républicains, personne n'a intérêt à ce que la débâcle et l'instabilité politique perdurent. Mais en même temps, personne n'a intérêt non plus à pouvoir être soupçonné d'accointance avec les macronistes à quelques mois d'une élection. Donc c'est vrai qu'on a une équation et un dilemme qui est très compliqué à résoudre pour les acteurs politiques, mais je veux croire qu'il y aura un esprit de responsabilité qui les gagnera dans les semaines et les mois qui viennent.
Anne Rosenchère du magazine L'Express, est-ce qu'à votre avis, les institutions sont-elles qu'elles sont et on peut très bien changer nos comportements dans ce cadre-là, ou est-ce qu'il faut les changer ? Et je vous donne juste un petit élément à mettre dans notre débat, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Le 17 septembre, donc cette semaine, vous avez la fameuse pétition contre la loi Duplomb, qui a réuni plus de 2 millions de signatures, sera examinée en commission à l'Assemblée nationale, et cette commission va décider si oui ou non on l'examine ou on la classe. Peut-être, je suis d'accord que c'est petit comme petite évolution du débat, mais enfin quand même, je pense que personne ne comprendrait qu'elle ne soit pas étudiée. Anne Rosenchère.
Moi, je prétends pas avoir la vérité en cette matière. Mon sentiment à moi, c'est qu'on qu'on n'a pas de problème d'institution, que c'est plutôt la façon dont on fait de la politique dans ces institutions qui les a perverties et même parfois retournées contre elles-mêmes, ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas tenir très longtemps. Donc, est-ce qu'on va en venir à une crise de régime ? C'est possible, mais pour l'instant, je serais plutôt partisane d'une prise de conscience des politiques, si c'est possible. La proportionnelle, moi, je suis assez ouverte parce que d'ailleurs, les constituants n'avaient pas souhaité mettre le mode de scrutin dans la Constitution en disant qu'il fallait pouvoir être un peu agile si les circonstances le nécessitaient. En revanche, je dis attention parce que pour moi, ça semble accentuer encore cette pente de ne pas chercher la majorité. C'est-à-dire que la proportionnelle, vous faites des coalitions en aval de l'élection. C'est-à-dire que chaque parti a sa stratégie, et puis en aval, vous avez des discussions, en fait, entre guillemets, dans le dos de l'électeur, même si c'est pas tout à fait dans le dos, parce que c'est une habitude démocratique. Mais normalement, le scrutin majoritaire permet les coalitions en amont. Bon, il y a eu quand même 1980. Enfin, je veux dire, c'était une coalition en amont, qu'on le veuille ou non. Les frères ennemis de la gauche. Bon, je dis pas du tout que c'est ce que je souhaite aujourd'hui, mais normalement, si les hommes et les femmes politiques essayent de revenir dans cet objectif-là, je ne sais même pas s'il était encore temps, parce que honnêtement, le Rassemblement national a pris tellement d'avance qu'aujourd'hui, c'est même compliqué de voir comment il ne va pas finir par gouverner tellement ils ont pris de l'avance dans cette constitution-là. Mais si les hommes politiques des partis traditionnels républicains se remettent à être dans cet état d'esprit-là, que quand même, la politique, c'est d'aller essayer de faire sien, de métaboliser, et par le diagnostic, par l'échange, par le compromis avec d'autres, etc., finir par proposer quelque chose qui soit majoritaire, ça me semble être quand même remettre la charrue avant les bœufs. Voilà.
Eh bien, il nous reste quelques minutes, une poignée de secondes pour vos coups de cœur. C'est presque la fin de cette émission. Alors Didier Mauss, vous avez pu réfléchir à une recommandation pour nos auditeurs et nos auditrices, professeurs de droit constitutionnel, je le rappelle.
Écoutez, lisez la Constitution.
Merveille, bon. Merci, je suis d'accord.
Sada, lisez le Code civil, moi je vous dis lisez la Constitution, c'est pas très épais. Et s'il y a besoin de vous l'expliquer, on vous l'expliquera.
Vous l'avez apporté avec vous d'ailleurs en petit format. Samuel Ayat, chercheur CNRS à Sciences Po, vous avez une recommandation pour nos auditeurs, nos auditrices?
Alors, si vous avez la chance de pouvoir passer aux rencontres d'Arles de la photographie, je vous conseille notamment l'exposition de Laetitia Battaglia, J'ai toujours cherché la vie. Voilà, c'était une très grande journaliste, une très grande photographe, célèbre notamment pour ses photographies de la mafia en Sicile. Mais dans cette exposition, on voit que c'est aussi quelqu'un qui photographie la vie populaire et qui nous donne une image du peuple, justement, de cette Sicile qu'elle affectionnait. Et voilà, c'est une photographie très très humaniste. Et je crois pour encore quelques semaines, si vous êtes dans le sud de la France.
Blanche Leridan.
Déjà, je partage votre recommandation. C'était mon coup de cœur arlésien cette année. Mais ma recommandation, elle est en écho à la chute de François Bayrou lundi. C'est un ouvrage qui est paru l'année dernière aux éditions Autrement, de l'auteur, traducteur et éditeur Claro, et qui s'appelle « L'échec ». Comment échouer mieux ? Il développe l'idée selon laquelle seul l'exercice de l'échec peut nous permettre d'élargir notre champ des possibles. Ouais. Et il cite Beckett, qu'il dit qu'il est important d'échouer mieux. Et je trouve que c'est une façon de changer un petit peu la façon de voir nos échecs à tous, qu'il considère non plus comme une malédiction, mais comme une chance. C'est extrêmement drôle, c'est très fin. Il cite à la fois Kafka, Pessoa, Cocteau, Hitchcock. Je recommande la lecture à François Bayrou, déjà, s'il a un peu de temps, pour qu'il puisse remettre de cet échec de début de semaine, et puis à l'ensemble de nos auditrices et de nos auditeurs.
Anne Rosenchère.
Alors moi, c'est un coup de cœur totalement faillot, parce qu'il s'agit d'une série de podcasts de France Culture, mais que j'ai écouté sur les routes cet été, qui s'appelle « À la recherche de Winston Churchill ». Et c'est en, je crois, 4 ou 5 épisodes.
Une grande traversée, 5 épisodes.
C'est une grande traversée, qui est passionnant, parce que déjà, il y a des choses que moi, je méconnaissais sur son enfance, sur son lui-même, quand il a été soldat, etc., mais aussi, je trouve, pour puisqu'il faut trouver toujours un peu des résonances, c'est magnifique. D'abord, on a le sentiment partout, tout le temps, que l'histoire n'est jamais faite. Je veux dire, c'est parce que quand on écoute cette grande traversée de Winston Churchill et quand on voit comment ça se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit que ce sont vraiment les hommes qui font l'histoire, des hommes exceptionnels, mais aussi les peuples. C'était le sujet de ce Winston Churchill se nourrit du peuple.
Merci voilà. Infiniment. Ça tombe bien. En effet, Anne Rosenchère, directrice déléguée du magazine L'Express, Samuel Hayat, chercheur CNRS à Sciences Po, auteur de Démocratie chez Anna Moza en 2020, Didier Mauss et Blanche Loridon. Merci à vous de nous avoir écoutés comme tous les dimanches. On se retrouve dimanche prochain. Très belle journée à l'écoute de France Culture.